Radio Kati, grand témoin. Premier recteur de l'Institut technique des sciences et de l'information et de la communication ici aujourd'hui, FACIC, et professeur ordinaire à l'Université de Kinshasa, Malembe Samonga, qui est celui que grand témoin reçoit pour vous aujourd'hui. Merci, professeur, d'avoir répondu à notre invitation. Avec vous, dans cet entretien, nous parlerons de votre personne, des fonctions que vous avez eues à exercer et de vos fonctions actuelles. Nous parlerons aussi avec vous de l'apport des médias dans le processus de démocratisation en RDC, 20 ans après. Nous n'en sommes pas encore là. Commençons d'abord par votre personne. Vous naissez un certain 28 novembre 1936. Dans quelle ville?
Pas novembre, mais octobre 1936, à Bolokalek. C'est une petite localité dans les territoires de Bakata, à 50 km de la ville de Bandundu.
C'est dans la province de Bandundu.
La province de Bandundu.
Et c'est là que vous faites vos études primaires et secondaires?
Oui, après mes études primaires, après 3 années secondaires, j'ai été à l'école qu'on appelait à l'époque coloniale, l'école d'assistants médicaux indigènes dans le Bandundu, où j'ai passé 5 années de formation, après 1 année de préparatoire. Et j'ai terminé mes études médicales en 1950. Et en même temps, j'ai préparé le jury central à l'époque pour pouvoir faire les études de médecine en Europe, plus exactement en France, en 1959. Mais malheureusement, je n'ai pas continué la médecine. J'ai préféré le journalisme que j'avais commencé à exercer dès 1956.
Et qu'est-ce qui fait que vous n'avez plus continué avec la médecine?
Oui, disons que...
On vous avait forcé à faire la médecine?
Disons que oui, on m'a forcé un peu de faire la médecine parce que je voulais être prêtre, mais pour des raisons tout à fait canoniques, j'ai été écarté, n'est-ce pas, de ces chemins et j'ai été orienté vers des études médicales. Mais quand on m'a envoyé, l'école m'a envoyé en France pour continuer la médecine, pour être ajouté 4 années et être docteur en médecine, je suis arrivé là-bas, il n'y avait pas encore d'équivalence entre les formations médicales faites au Congo belge et les formations médicales faites dans les colonies françaises. On ne savait pas dans quelle catégorie les classer, et alors on m'a obligé de reprendre des études de médecine, ce que j'ai refusé.
Et vous avez préféré continuer avec le journalisme?
Oui, en ce moment-là, à la même université, l'Université catholique de Lille, il y avait une grande école de journalisme à cheval entre la faculté de droit et la faculté des lettres, et j'ai appris que cette école existait, et alors je me suis présenté, j'ai participé au concours, parce que la condition, en dehors du baccalauréat, il fallait, n'est-ce pas, participer au concours. Et donc j'ai participé au concours. Comme j'avais déjà cette vocation journalistique au Congo, j'avais rédigé une revue pendant plus de 3 ans, et j'avais effectué de grands reportages à travers le pays, à travers les 3 colonies, pour ainsi dire, le Rwanda, le Burundi et le Congo belge. J'ai alors préféré faire des études de journalisme.
Vous avez obtenu votre diplôme de médecine en 1959. Donc une année avant l'accession de notre pays à son indépendance.
Exactement.
Et quand l'indépendance est arrivée, vous n'étiez pas sur place au pays?
Non, non. Je suis arrivé en France le 12 septembre 1959. J'ai quitté le Congo, n'est-ce pas, le 11 septembre 1959. Donc quand le pays a accédé à l'indépendance, je suis allé à Bruxelles, à la table ronde. Je croyais qu'on allait accepter des délégués des étrangers, des étudiants congolais à l'étranger. On allait les accepter à la table ronde. Donc j'ai quitté la France, je suis allé à la table ronde. Bon, on nous a dit que ce n'était pas question. C'est là où j'ai rencontré par hasard un certain journaliste, Joseph Désiré Mobutu, qui lui aussi voulait participer, n'est-ce pas, à la table ronde. Et on lui avait refusé l'accès, comme on m'avait refusé, n'est-ce pas, l'accès. Donc j'ai été un peu à la porte, près des négociateurs, n'est-ce pas, de l'indépendance du pays, mais je n'étais pas au Congo en ce moment-là.
À cette époque-là, l'indépendance représentait quoi pour vous, professeur Malembe?
Peut-être quand j'étais au Congo, je ne m'étais pas fait une grande idée sur l'indépendance du pays, mais quand je suis arrivé en France, j'ai commencé à participer à toutes sortes aux activités de plusieurs organisations qui s'intéressaient à l'Afrique, et en particulier la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, la FEANS, le Pax Christi, l'Union des étudiants catholiques africains, le Congrès pour la liberté de la culture, les activités organisées par la Société africaine des cultures à travers son organe d'expression présence, n'est-ce pas, africaine. Et donc, en ce moment-là, j'ai compris que l'indépendance était en mouvement. mouvement est très très important dans la promotion de la culture nationale, parce que c'est en Europe que j'ai pris conscience que nous avions une culture, que les Noirs avaient une culture, et qu'il fallait être indépendant pour l'épanouissement, n'est-ce pas, de cette culture.
Est-ce que le Congo est indépendant aujourd'hui, 50 ans après?
C'est un problème, c'est une question qui ne concerne pas seulement le Congo, ça concerne pratiquement toute l'Afrique noire. Est-ce que représente pour nous l'indépendance? Est-ce que nous avons maîtrisé l'indépendance, tous ces instruments, des instruments qui nous permettent d'accéder à une véritable indépendance, une indépendance économique, une indépendance culturelle? Non, je pense que nous sommes encore dans un stade de piétinement. Nous sommes là en train d'hésiter. Et je ne pense pas que nous avons accédé réellement à l'indépendance. Non, je ne pense pas.
Professeur Malembe, vous êtes diplômé en ethnologie et en sciences politiques et sociales de l'Université de Louvain en Belgique.
Oui, je suis donc, j'ai la maîtrise en journalisme de l'Université catholique de Lille en France. Je suis licencié en ethnologie, qu'on appelle aujourd'hui anthropologie sociale et culturelle. Et je suis licencié en sciences politiques et sociales, option relations internationales de l'Université catholique de Louvain. Et bien entendu, j'ai travaillé pendant une année au marché commun, qu'on appelle aujourd'hui l'Union européenne, comme premier journaliste africain. D'abord, l'Université Louvagnon m'a découvert, il m'a engagé comme assistant au mois d'avril 1965, et c'est ainsi que les Français, qui étaient appelés par le gouvernement congolais à moderniser l'espace médiatique congolais, et qui étaient chargés, entre autres, à installer la télévision au Congo, c'est ainsi que les Français m'ont découvert, et sont venus me chercher à l'Union européenne pour les études de faisabilité et pour diriger plus tard la télévision congolaise.
Il y avait déjà des assistants noirs à l'Université de Louvain, ou vous étiez parmi les premiers assistants noirs?
Nous sommes parmi les premiers. Il y avait là des ceux qu'on appelait chargés d'enseignement, comme le Marcel Liao, comme le professeur Malo aujourd'hui, comme le Wemby. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas encore obtenu, n'est-ce pas, le titre de docteur.
Et je remarque qu'il y a beaucoup de personnes, des professeurs de votre génération qui ont étudié à l'Université de Louvain. Il y avait des bourses qu'on donnait aux étudiants pour aller étudier à cette université, où chacun s'est débrouillé selon ses moyens.
Bon, il faut distinguer les périodes. Vous savez, avant l'indépendance. Avant l'indépendance, il y avait quand même, les catholiques avaient envoyé quelques Congolais, n'est-ce pas, à Louvain. Par exemple, ceux qui avaient étudié à Kisanto. Il y avait un centre administratif à Kisanto, comme il y avait un centre de formation médicale à Kisanto, et les jeunes gens qui étaient formés là-bas étaient très très bien formés. C'était en fait, Kisanto était un centre universitaire. Mais les Belges ne voulaient pas le reconnaître. Et alors, parmi les diplômés de cette école, les catholiques ont envoyé quelques-uns à Louvain. Quand le Congo accédait à l'indépendance, il y avait le groupe, n'est-ce pas, de l'Office belge de coopération et développement qui était attribué aux Congolais. Il y avait également les universités belges qui ont attribué, n'est-ce pas, de bourses. Mais avant l'indépendance, c'était les catholiques qui donnaient des bourses pour leurs anciens de Louvain qui étaient à Kisanto en ce moment.
Vous êtes docteur en sociologie de la Sorbonne.
Oui.
Les études en ethnologie et sciences politiques ne suffisaient pas. Il fallait encore un doctorat en sociologie.
Parce que je me suis trouvé avec trois diplômes universitaires. Alors, je ne savais pas dans quel domaine y aller. Et j'ai compris que le seul domaine où je pouvais utiliser toutes les compétences, c'était l'enseignement, la carrière académique. Or, pour accéder à la carrière académique partout dans le monde, il faut terminer les études universitaires. Et il n'y a que le doctorat qui parachève, pas les doctorats en médecine, mais c'est le doctorat à thèse qui couronne les études universitaires. Et donc, j'étais obligé de faire le doctorat en sociologie et je suis licencié en ethnologie, mais entre l'ethnologie et la sociologie, ce sont des branches tout à fait proches. L'ethnologie étudie les petites sociétés, les petites dimensions. La sociologie, ce sont les grandes dimensions, n'est-ce pas, qu'on étudie. Donc, il suffit d'ajouter quelques compléments et qu'on ajoute dans les cadres des séminaires pour préparer soit des doctorats en sociologie, soit des doctorats en ethnologie.
Professeur Malembe, quel est le plus beau souvenir que vous gardez de votre enfance?
Plus gros souvenir.
Il y en a eu beaucoup, mais c'est lui qui vous a le plus marqué.
Oui, il y a beaucoup de souvenirs. Souvenirs d'abord d'avoir étudié dans des conditions extrêmement difficiles durant, n'est-ce pas, mon enfance, dans des conditions très très difficiles, sans aide des parents et tout cela. Et donc c'était très très difficile, mais en même temps de souvenirs des missionnaires qui m'ont compris et qui m'ont aidé. Puis les souvenirs d'un enfant très très turbulent dont on avait souvent peur, et les souvenirs d'un homme qui s'est assujetti, qui s'est discipliné et qui a pu poursuivre n'est-ce pas les études.
Radio Catholique, grand témoin.
premier recteur de l'Institut technique des sciences de l'information et de la communication, ISTI, aujourd'hui, ainsi que professeur ordinaire à l'Université de Kinshasa, Malembe Tamonga, que celui que Grand Témoin vous fait découvrir aujourd'hui. Professeur Malembe, vous êtes le premier recteur de l'Institut technique des sciences de l'information et de la communication, ISTI, aujourd'hui, IFASI, créé en 1973. Mais qui est venue l'idée de créer une école pour journalistes en RDC?
L'idée m'a été suggérée en 62. En 62, j'ai terminé mes études de journalisme à l'école supérieure de journalisme de Lille. Alors j'avais le choix de rentrer dans mon pays en 60. Mais les directeurs de l'école avaient peur, n'est-ce pas, de me voir travailler dans des conditions qui étaient très très difficiles à cette époque au Congo. Et il m'a suggéré de rester en Europe. Et il m'a fait une réflexion qui est très très importante. Il dit voilà, le concept de liberté chez nous en Occident est tout à fait différent de chez vous. Et quand vous allez quitter l'Europe pour aller en Occident chez vous, vous allez faire maintenant un nouvel effort de réadaptation pour retrouver, n'est-ce pas, les repères, n'est-ce pas, de votre culture. Et ces revirements, n'est-ce pas, cette réadaptation demande un gros effort psychologique et voire même politique, en déchirement. Et la meilleure formule pour les jeunes gens venus de pays en voie de développement et qui font les sciences sociales, c'est d'étudier d'abord chez eux, de faire les études universitaires en Europe, d'étudier dans leur milieu et de venir en Occident pour le perfectionnement. Alors, je vous conseille, comme vous êtes, vous venez de terminer vos études, vous êtes le premier Congolais et vous êtes le premier journaliste africain à avoir le diplôme. À ce moment-là, nous étions trois. Il y avait un Camerounais, il y avait un Guinéen.
Mais c'est moi et vous, le Congolais.
Oui, et c'est moi qui étais le premier à présenter les taux examen, n'est-ce pas, et mémoire. Alors, il dit, voilà, vous avez très, très bien travaillé à l'université ici chez nous. La meilleure formule, c'est de réfléchir sur la possibilité de créer une école, n'est-ce pas, de journalisme dans votre pays. Et donc, quand il m'a suggéré cette idée-là, bon, j'ai eu en tête l'idée aussi de poursuivre des études à l'étranger en Europe. Donc, je suis parti à Louvain faire ces études-là. Et quand j'ai terminé, d'abord en 63, je me trouvais à Louvain, je suis venu au Congo au mois de mars. Au mois de mars, je suis venu, il y avait un stage organisé par l'UNESCO pour les agences, pour l'Agence congolaise de presse. On formait ce qu'on appelait des correspondants provinciaux de l'Agence congolaise de presse. J'étais parmi les trois animateurs de ce stade. Voilà. Et donc, et à ce moment-là, nous avons pensé qu'il fallait créer une école de journalisme au sein de l'École nationale de droit et d'administration. Nous avons fait les démarches, mais ça n'a pas abouti. L'École nationale de droit et d'administration dépendait de la fonction publique. Et la fonction publique n'avait pas intérêt à former, n'est-ce pas, les journalistes. Les frères des écoles chrétiennes eux-mêmes, en ce moment-là, ont diffusé un communiqué annonçant l'ouverture à l'entrée académique 63-64 d'un institut supérieur de technique et art de diffusion au Congo. Bon, je suis rentré en Europe à la fin du mois de mars pour continuer mes études. Je suis revenu en 65 à la demande des Français pour participer avec eux au lancement de la télévision congolaise. Quand le général Mobutu a pris le pouvoir, on a suspendu nos activités parce qu'il y avait rivalité entre les Occidentaux, les Américains qui voulaient créer, qui voulaient intervenir pour la télévision, les Belges qui étaient là, les Français, et à un moment donné, le président Mobutu a pris la décision de suspendre nos activités. Et quand on a suspendu nos activités, j'ai été versé, n'est-ce pas, à la RTNC. Et alors, en ce moment-là, au mois de mars, je crois, j'ai eu l'idée de créer une école de journalisme. J'ai créé l'école de journalisme, l'école supérieure de journalisme de Kinshasa, qui a fonctionné pendant 3 mois.
Et donc, vous, les créateurs de cette école de journalisme.
Exactement, qui a fonctionné pendant 3 mois, et finalement, j'ai été obligé de fermer parce que je n'avais aucun soutien. Et quand on a créé, quand je suis revenu au Congo comme professeur à Lovanium, on a créé, pas moi, mais les deux universités catholiques, Louvain et Lovanium, ont créé le département des communications sociales, qui a fonctionné pendant 3 ans. Entre-temps, quand on a créé l'UNAS en 71, j'étais envoyé à Lubumbashi. À Lubumbashi, j'ai créé le département des sciences de l'information. C'est ce département des sciences de l'information que, grâce à M. Sakombi Nongo, avec l'appui des Français, qui a été transféré ici à Kinshasa, officiellement le 28 mai 1703, sous la dénomination de l'Institut des sciences et techniques de l'information ISTI. Alors, et donc, l'ISTI a fonctionné comme, n'est-ce pas, partie comme l'une des composantes indépendantes de l'Université nationale du Zaïre.
Professeur, racontez-nous un peu au début comment ça s'est passé cette école. Il y avait beaucoup d'étudiants?
Non, je suis parti avec la conception de l'île. Et à l'île, ce qui était important, ce n'est pas la quantité, c'est la qualité. Il fallait former les gens d'abord qui peuvent être utilisés immédiatement par, n'est-ce pas, la profession. Et alors pour cela, il fallait les encadrer correctement. Et donc nous étions très très peu nombreux à l'île. C'était de promotion de 20 à 30 personnes maximum. Et je suis venu avec cette conception Congo, former très peu de gens, mais de très hauts et très hauts niveaux. J'ai commencé cela à Lubumbashi avec des jeunes gens que vous connaissez peut-être, à Toufou Kambouzé, qui était l'un des PDG de la RTNC. Puis c'est à peine 12 avec le Poiti qui est mort il n'y a pas longtemps. Je suis venu avec eux ici pour continuer la licence. Et le groupe Ricambo que j'ai recruté était à peine 24. Et c'était 100 candidats. Mais je n'ai retenu 24. En ce moment, j'étais tout à fait indépendant. C'est moi qui fixais le nombre de gens que je devais, n'est-ce pas,
accueillir.
Exactement. Et pour cela, on devait passer par un concours qui n'était pas une complaisance. C'était un véritable concours. Vous deviez vous classer parmi les 24 premiers. Il y avait beaucoup d'exigences. Et ensuite, durant toute la formation qui durait 4 années, toutes les 4 années devaient se passer sur le terrain. Il y avait des stages dès la première année de graduat jusqu'à la licence. On avait 2 mois de stage, n'est-ce pas, un peu partout. Et on envoyait les gens partout à travers tous les Congos. Et même à l'étranger, on envoyait les gens effectuer leur stage.
Donc les conditions d'études étaient très bonnes comparativement aux conditions actuelles. On dit même que c'était la plus grande école de journalisme en Afrique centrale, professeur Lende.
C'était la plus grande école de journalisme. Dès février 1974, nous avons signé des accords de coopération avec toute l'Afrique centrale, sauf les Congos populaires. Mais nous accueillons même les gens venus de Dakar. Or, Dakar avait son école de journalisme, n'est-ce pas? Yaoundé également avait son école de journalisme, mais les gens venaient chez nous parce que les niveaux étaient déjà très très élevés, très très élevés. Et puis les jeunes gens avaient la possibilité de se spécialiser. On pouvait donc faire le journalisme politique, journalisme de politique extérieure, journalisme économique, ce qui n'existait pas, ce qui n'était pas organisé ailleurs. Et puis nous avions des professeurs qui étaient à la fois de professionnels et des universitaires.
C'était des professeurs congolais ou bien des étrangers?
En ce moment, le seul professeur congolais dans le domaine de la communication, c'était moi-même. Mais j'ai quand même eu soin d'intégrer dans le corps enseignant des professionnels congolais. Vous prenez l'actuel DG d'Antenne A,
Salagaï.
Il était là, avec 2 ou 3 autres, était là pour des cours pratiques. Le Panou Daniel, qui était le PDG de la CP, était là pour les cours d'agence. Donc, des gens que je cherchais, que je recrutais, en fonction de leurs compétences, pour encadrer, pour former de véritables agents, de véritables professionnels de médias, pas seulement des agents de médias, mais des gens qui participent à la promotion, qui sont conscients, qui sont en train de participer à la promotion, n'est-ce pas, de leur pays.
Professeur Malé, est-ce qu'on est obligé de passer par une école de journalisme pour devenir journaliste?
Il y a des conceptions à ces propos. Dans les temps, on estimait que ce n'était pas nécessaire de faire une école de journalisme et que le journalisme était un don inné, n'est-ce pas? Donc, les écoles de journalisme n'existaient pas même en Europe. La seule école qui a existé en Europe, c'était l'école supérieure de journalisme de Lille qui a été fondée en 1929 et où les jeunes gens de l'Occident allaient recevoir leur formation. Mais ceux qui sont venus au journalisme sont les gens venus du droit, venus, n'est-ce pas, des lettres, etc., etc. Mais on s'est rendu compte quand même que le journalisme devenait de plus en plus une science. C'était à la fois une science humaine, une science sociale, mais en même temps une science exacte. Et qu'il fallait quand même posséder, en dehors des aptitudes innées, acquérir certaines aptitudes à partir de la formation. Et donc on s'est rendu compte que la formation était nécessaire. Mais en même temps, on a laissé la voie à l'extérieur. On a dit par exemple que les jeunes gens qui font le droit, les jeunes gens qui font les lettres, qui font l'économie, peuvent venir comme journalistes spécialisés, à condition qu'ils suivent une certaine formation journalistique.
Vous avez été aussi rédacteur en chef du journal télévisé, j'imagine que c'est à la télévision nationale.
Oui, je suis le premier rédacteur en chef de la télévision congolaise.
C'était en quelle année?
D'abord, j'ai travaillé comme formateur. Je suis venu, je vous ai dit que ce sont les Français qui sont venus, les sorciers en Belgique. Et j'ai on a commencé à former les gens qui allaient travailler à la télévision. Quelques mois avant de démarrer la télévision, j'étais nommé rédacteur en chef de la télévision. J'étais nommé au mois, n'est-ce pas, de septembre. La télévision, nous allions l'inaugurer le 23 novembre 1966, mais je n'ai pas fait longtemps, j'étais obligé de démissionner à la fin du mois de mars.
Pourquoi, professeur?
Parce que j'ai eu un conflit sur le plan psychologique. J'avais fait les études de journalisme et ma conception à moi était que j'étais non pas au service d'un individu, non pas au service d'une propagande, et non pas au service d'un système politique, mais j'étais au service du pays, au service de l'opinion publique. Et que mon travail n'était pas là-bas pour faire la propagande d'un régime politique. Or, ce qu'on m'a demandé, c'est de faire la propagande du régime qui venait s'installer au Congo en 1965. Par exemple, le 6 mars 1967, M. Tshombe a été condamné à mort par contumace au tribunal militaire qui siégeait au Kinshasa. Le ministre de l'Information m'appelle à son bureau, il est vivant, il s'appelle Kandidia Djambolaté, il me confronte dans son bureau, il me dit, bon voilà, vous êtes le patron de la télévision, voici ce que nous vous demandons. Vous devez annoncer cette nouvelle, faites des commentaires, n'est-ce pas, jusqu'à la fin. Et moi, quand je suis arrivé, d'abord j'ai signé que ce n'était pas le travail d'un patron de télévision d'annoncer de tels événements. Ensuite, j'ai signé que c'était de la propagande, revenir toutes les 15 minutes, toutes les 30 minutes sur le même dossier, sur la même information. Non, non, ce n'était plus de l'information, c'était de la propagande. Alors, j'ai refusé ces travails-là. Et le lendemain matin, il y avait réunion, n'est-ce pas, avec le ministre de l'Information, il y avait bagarre, et j'ai démissionné. Je suis parti. Et j'ai eu un conflit. Un conflit moral. Et alors, pour m'en dégager, j'ai préféré rentrer à la Sorbonne, achever de faire ma thèse de doctorat.
Et vous avez même échappé à la mort, professeur Namibé?
Oui, j'ai échappé à la mort, disons, en 71, pour ainsi dire. En 71, vous savez, j'étais jeune professeur à l'université Lovanium à Kinshasa. Nous étions arrêtés quand les étudiants se sont rébellés. Les étudiants de Lovanium se sont rébellés. Et les services de sécurité m'ont attribué la responsabilité, l'idéologie, n'est-ce pas, de ce mouvement. Et donc, j'ai été arrêté, j'ai passé 6 mois au cachot, en commençant d'abord par les cachots les plus pénibles, les cachots de camp Tchati, ensuite au cachot de l'OIA, et pour échouer à la Gombée. Et c'était des moments extrêmement pénibles, parce qu'en ce moment-là, nous avions un responsable de sécurité qui venait d'être nommé, un certain Manzikala, et qui n'hésitait pas à prendre les gens, à les jeter, n'est-ce pas, au fleuve. Donc, nous étions là, chacun attendait son tour pour être pris, pour être jeté, n'est-ce pas, au fleuve. Heureusement que Dieu nous a protégés et nous sommes sortis après 6 mois.
Chefs d'entreprise, dirigeants des institutions publiques et privées, responsables de syndicats, acteurs sociaux, découvrez les activités, les fonctions, mais aussi la personnalité de ces hommes et ces femmes qui façonnent la République démocratique du Congo d'aujourd'hui et de demain dans Le Grand Témoin, chaque samedi et chaque dimanche.
Premier recteur de l'Institut technique des sciences de l'information et de la communication, ISTI, aujourd'hui, SASIC, et professeur ordinaire à l'Université de Kinshasa, Malembe Tamondag, et celui que Grand Témoin vous fait découvrir aujourd'hui. Parlons du processus de démocratisation, professeur. Cela fait 20 ans depuis que ce processus a commencé en RDC. Quel est l'apport des médias dans ce processus de démocratisation? Est-ce que le média joue un rôle particulier dans ce processus?
Oui, les médias jouent un rôle extrêmement important. Les médias sont les interfaces entre les dirigeants et le public. Ce sont les médias qui transmettent au pouvoir les préoccupations du peuple et ce sont les médias qui transmettent vers le peuple les préoccupations des choses. Donc les médias jouent un rôle extrêmement important, le rôle d'éducation, parce qu'à travers les informations que nous diffusons, il ne faut pas croire que ce sont des simples informations. Nous transmettons également les éléments de l'éducation. N'est-ce pas? Parce que grâce à nos informations, nous formons la conscience nationale et sans la conscience nationale, sans la conscience internationale, il n'y a pas de citoyens sans cité. Il n'y a pas de cité sans citoyens. Et donc, les médias jouent un rôle très important dans les processus de démocratisation pour appeler la population à assumer ses responsabilités responsabilité dans ce processus, n'est-ce pas, de développement. Bon, la question qui se pose, est-ce que le média, au stade actuel, assume réellement ce rôle? Oui et non. Oui, en ce sens que le média transmet les informations. Mais les médias travaillent dans des contextes extrêmement difficiles. Les médias n'ont pas les moyens de leur action, n'est-ce pas? Être journaliste dans nos pays aujourd'hui, c'est choisir la voie de la pauvreté, n'est-ce pas? Ce sont des gens qui sont très très vulnérables. Et puisqu'ils sont vulnérables, et ils ne peuvent pas assumer efficacement le rôle, parce que celui qui a les moyens peut agir sur le journaliste. Ils ont prenez ça, faites ça, faites ça. Et les autorités en usent, n'est-ce pas? Ce que vous appelez le coupage, à partir du moment où vous acceptez le coupage, vous n'avez plus votre identité, n'est-ce pas, de journaliste. Vous êtes vulnérable. La main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit.
Alors aujourd'hui, 20 ans après, quel bilan vous dressez du processus de démocratisation en RDC? Brièvement.
Quand je compare notre pays au Congo belge, vous n'avez pas, vous, mademoiselle, beaucoup de repères. Moi, je suis né avant l'indépendance. J'ai connu ce pays avant l'indépendance. J'ai vu comment les Belges ont géré ce pays. J'ai vu comment ce pays était organisé. Mais aujourd'hui, pour moi, le bilan est très, très négatif. Et je regrette pour moi, ou plutôt je regrette non pour moi, mais pour mes enfants. Je me dis, quel héritage on va laisser à ces jeunes gens? Ils vont croire que nous avons vécu comme ça, mais nous n'avons pas vécu comme ça. Non, mon opinion est très très négative sur le processus de l'indépendance de notre pays. Je crois que nous avons raté beaucoup d'occasions, et notre malheur à nous, permettez-moi de vous parler très franchement. D'abord, les Belges n'ont pas préparé l'indépendance de ce pays, et d'autre part, ce pays a été confié aux évolués. Les évolués, c'était qui? C'était des dactylos de l'administration coloniale. C'est à ces gens-là que les Belges ont confié ce pays. Donc, les gens qui n'avaient aucune expertise, aucune expérience démocratique. Et on a mis ce pays entre les mains, n'est-ce pas, de ces gens. Que pouvaient-ils faire avec une indépendance, avec un esprit, avec un niveau culturel très borné? Je dirais même que le processus de développement d'un pays, c'est avant tout un processus culturel. Vous pouvez avoir beaucoup d'argent, mais si vous n'avez rien dans votre cerveau, vous n'avez rien dans votre cœur, vous n'avez rien dans votre esprit, eh bien les moyens mis à votre disposition ne serviront à rien. Nous avons reçu beaucoup de moyens qui auraient pu nous permettre de décoller. Mais que deviennent ces moyens? On nous dit par exemple qu'il y a 17 milliards de francs congolais qui circulent hors, n'est-ce pas, de circuits bancaires. Mais ceux qui dirigent ces pays, à tous les niveaux, savent où se trouvent ces 5 milliards. Est-ce qu'un pays comme le Congo peut vivre avec un budget de 3 milliards ou de 4 milliards de dollars? Non. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. C'est un problème mental, un problème culturel. Nous passons de la culture traditionnelle, la culture de subsistance, à la culture du marché, à la culture moderne, qui demande d'autres, n'est-ce pas, d'autres réflexes. Et nous n'avons pas ces réflexes. Il faut donc un effort de formation culturelle qui va encore prendre beaucoup de temps. Nous avons encore beaucoup de temps, mademoiselle, même si les Chinois arrivent et vont décoller ce pays, vous allez retomber dans la même situation parce que vous n'avez pas encore maîtrisé l'outil occidental qui est un processus philosophique. C'est un processus philosophique. Pour que l'Occident arrive à ces niveaux-là, il devait passer par plusieurs phases.
Professeur, nous sommes à la fin de cet entretien. Qu'est-ce que vous vous dites quand vous voyez des gens que vous avez formés émerger aujourd'hui, occuper des grands postes dans ce pays? Ça vous fait quoi? Vous vous dites quoi, professeur Malembe?
Eh bien, je n'ai pas perdu mon temps. J'ai toujours dit que la carrière la plus noble dans le monde, c'est l'éducation. Parce que c'est l'éducation qui permet le développement du pays. Je vous ai formé, voilà, vous êtes là, vous participez au développement de votre pays. Peut-être que si vous n'aviez pas fait des études, vous ne seriez pas à ce niveau. Donc, l'éducation, c'est la clé. Et un pays qui n'investit pas dans l'éducation, c'est un pays qui doit échouer. Et moi, je suis très fier. Quand je passe partout à pied, je vois partout, je suis interpellé. Professeur Manimé, mais vous m'avez donné cours à tel endroit, vous m'avez donné cours. Je suis très heureux. J'occupe tel poste, je travaille à tel ministère, je travaille à telle entreprise, j'occupe telle fonction. Je suis très très heureux. Je dis voilà, je suis en train d'atteindre mon but. J'ai fait un travail. Je suis né pour être éducateur. Je n'ai pas trahi cette vocation. Je suis resté dans l'éducation. Eh bien, je suis très très heureux parce que c'est la carrière la plus noble.
Merci, professeur. C'est la fin de cette émission. Je recevrai pour vous Malembe Tabondia, qui est premier recteur de l'Institut technique des sciences et de l'information de la communication ici, aujourd'hui ici, qui est professeur ordinaire à l'Université de Kinshasa. Merci à Paul Badenyama qui est à la technique au micro qui est d'une côté. Retrouvez cette émission sur notre site internet www.radiocapi.net sur la page des grands témoins. Bon type de programme sur la fréquence de la paix.